10h42 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Le numéro pour nous rejoindre en studio, on prend toujours le temps de vous lire, 418-971-1021.
Stéphane nous écrit « J'ai été forcé de revenir au bureau avant ma retraite et tous mes employés étaient dans d'autres provinces. J'étais en Teams 7 heures par jour. Même chose pour ma blonde au provincial. Elle fait des enquêtes de fraude pour le gouvernement et elle n'a aucune place discrète et aucune place pour sécuriser des documents confidentiels qu'elle doit transporter avec elle pour les sécuriser à la maison. C'est n'importe quoi. »
C'est ce qu'on dit dans ce temps-là au Québec, Kat Bachan.
Quoi?
Ça va bien aller.
Ah ouais, mais shoot-moi des arcs-en-ciel.
Toujours un plaisir de lui parler, puis c'est rendu une tradition les lundis, parce qu'il se passe toujours bien des affaires au courant de la fin de semaine. Georges Mercier, analyste politique international. Salut mon ami.
Salut Max.
Donald Trump qui a annoncé le lancement d'une grande opération pour débloquer le détroit d'Ormuz avec notamment l'envoi de 15 000 soldats. Bon, il y a bien des affaires là-dedans, là, à commencer par le fait que là, Donald Trump disait que c'était lui qui bloquait le détroit d'Ormuz, puis là, il lance une grande opération pour le débloquer. Ça c'est comme la première affaire. Mais bon, l'opération en tant que telle, en quoi ça consiste? Est-ce que ça va faire quelque chose?
Ben, il y a deux éléments à distinguer ici. Il y a l'opération militaire, là, où on veut escorter, dit-on, des navires pour qu'ils puissent quitter le golfe Persique et éventuellement réapprovisionner les marchés en énergie, parce qu'on sait qu'il y a de graves pénuries d'énergie dans certaines régions du monde, en région du conflit. Donc, il y a l'opération matérielle. Puis après, il y a le message qu'on envoie à la communauté mondiale, disons. Parce que ce qui est absolument fascinant, Max, depuis le début de la guerre que les États-Unis ont lancé contre l'Iran, c'est une forme d'ambivalence dans la réaction. Notamment, les pays européens n'ont pas voulu soutenir très, très fortement l'opération américaine. On dit depuis le départ, écoutez, c'est pas notre problème, on s'en lave les mains. Mais tous les pays du monde subissent les contre-coups de la fermeture qu'a décrété le régime iranien. Donc, ce que le président américain dit, c'est écoutez, à Téhéran, écoutez, moi, je veux faire quelque chose de raisonnable, d'humanitaire. Il y aurait 20 000 marins qui sont pris dans le golfe Persique en ce moment, des milliers de navires. Donc, soyez raisonnable de votre côté aussi à Téhéran. Laissez ces gens-là sortir pour motif humanitaire. Et ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est lancer un défi à l'Iran. Est-ce que vous voulez confirmer, aux yeux de la planète essentiellement, que vous êtes vraiment un régime déraisonnable et donc en partie justifier l'opération américaine? Je pense que c'est vraiment ça qui se passe en ce moment. C'est un défi lancé au régime iranien.
Puis j'ai-tu vu, puis là j'y vois vraiment de mémoire et il me semble une notification que j'ai reçue en fin de semaine, là, mais un genre de « l'Iran a dit aux États-Unis, ah ben allez-y, soit vous prenez le deal que vous trouvez mauvais, soit allez-y avec votre opération militaire qui n'a pas de bon sens puis qui n'a pas de chance de réussite. »
Mais c'est exactement ça. Le régime iranien, depuis le début, il est vraiment, vraiment intransigeant. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment, vraiment intransigeant? Ben, parce qu'il survient encore. Puis le but du régime, c'est simplement de survivre. Donc, tant ou si longtemps qu'il n'est pas démantelé, qu'il n'y a pas une révolution populaire en Iran, ce qui pourrait encore se produire d'ailleurs, ben, le régime pense qu'il est vainqueur et il se comporte en vainqueur face aux États-Unis. Le problème pour les Iraniens, c'est que tu disais, Max, au début de notre entretien, les États-Unis bloquent le détroit d'Ormuz sur les Iraniens. Ce que les Américains proposent de faire avec leur blocus, c'est empêcher les navires iraniens et seulement les navires iraniens de sortir du golfe Persique ou d'y entrer. Le but là-dedans, c'est de couper l'approvisionnement en argent des membres du régime iranien parce qu'ils ne pourraient plus exporter leur pétrole pour les contraindre d'arriver à la table de négociation. Le régime veut nous faire croire que ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Pourtant, lorsqu'on regarde dans le détail les offres de règlement que le régime envoie, ben, ils assouplissent tranquillement pas vite, d'offre en offre, leurs conditions. Ce qui nous indique qu'il y a peut-être de vraies douleurs de leur côté. Un point très intéressant, je pense qu'on doit bien le comprendre, le détroit d'Ormuz, là, il n'est pas fermé en ce moment. Il n'est pas fermé matériellement. Il n'y a pas des frégates iraniennes qui coulent systématiquement des navires marchands. Il y a une menace, et cette menace-là, elle est suffisante pour que le trafic ne passe plus. Si les Américains parviennent à faire ce qu'ils disent qu'ils font, là, donc à faire sortir des navires, la menace psychologique des Iraniens, elle diminue, elle a moins d'importance, et donc ils parviendraient, si ça fonctionne, c'est pas clair du tout que ça va fonctionner, ils parviendraient à limiter le pouvoir des Iraniens.
Il y a autre chose que je veux que tu nous clarifies un peu, Georges Mercier. On parlait beaucoup des fameux 60 jours. Au bout de 60 jours, le Congrès américain doit donner son aval pour que les opérations militaires se poursuivent. Là, théoriquement, dans les derniers jours, on est arrivé au bout de 60 jours-là. Mais là, la carte que Donald Trump semble jouer, c'est de dire « Non, non, on n'est pas en conflit. On est en cessez-le-feu. » Fait qu'à partir du cessez-le-feu, le compte s'est arrêté. C'est bien ça qui se passe, là.
Ben, je pense que tu l'as parfaitement bien résumé. Essentiellement, là, constitutionnellement aux États-Unis, c'est seulement le Congrès qui a le pouvoir de déclarer la guerre. Mais parce qu'évidemment, le Congrès est lent, ben, on offre au président la possibilité de déclencher les hostilités en lui disant « Viens nous voir au maximum dans 60 jours pour qu'on approuve ou non ton opération. » Et là, ce que Trump dit, c'est « On va invoquer un gimmick légal, dire qu'un cessez-le-feu, c'est la fin des hostilités. On va envoyer une lettre au Congrès pour déclarer que les hostilités sont finies, pour qu'il n'y ait pas de vote, mais on va se laisser une marge de manœuvre pour continuer quand même. » Juste à ce sujet-là, tu sais, aux États-Unis, en ce moment, il y a toujours la loi, puis il y a les faits, puis dans les faits, ce serait très surprenant que les sénateurs républicains ou que la Chambre contrôlée par les républicains, qui soutiennent encore, hein, pas très fort, mais qui soutiennent encore le conflit, mettent des bâtons dans les roues de Donald Trump. Il a voulu s'éviter ça, donc il a employé ce que j'appelle un gimmick légal pour s'en sortir.
Là, est-ce que Donald Trump arrive un peu au bout de ses cartes? Puis on sait, il y a 52 cartes dans un paquet. On dirait que Trump en a joué beaucoup de ces cartes-là. Puis là, ben, à un moment donné, il y a ces menaces plus importantes qui sont arrivées par moment, qu'il n'a jamais mises à exécution. Là, il va-tu arriver à un moment donné au point où il va être obligé de frapper fort comme il a menacé à certains moments de frapper fort?
On doute de la crédibilité par moment.
Ben, c'est ça.
Ben, c'est une bonne question. Tu sais, c'est vrai qu'il y a 52 cartes dans un paquet, mais si on joue à un jeu avec Donald Trump, je serais pas surpris qu'il aille prendre une feuille blanche, qu'il dessine une figure, puis qu'il nous dise que c'est une nouvelle carte.
Oui,
donc,
ça.
Est-ce qu'il est arrivé au bout de ses cartes? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que depuis le début du conflit, l'argument qu'on entendait partout, c'est écoutez, il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent, il voudra pas imposer un prix à la pompe trop élevé aux Américains, donc il y aura pas le choix de rétro-pédaler. Mais là, ce qui se produit peut-être en ce moment, c'est qu'on est tellement proche des élections de mi-mandat que même si les hostilités arrêtaient tout de suite, OK, qu'on relançait les exportations, il n'y aurait pas de soulagement à la pompe. Donc, à ce niveau-là, son calcul, il change un peu à Donald Trump. Peut-être qu'il sait qu'il va les perdre, ces élections de mi-mandat, ou qu'au moins, il va faire des pertes importantes. Et il se dit, mais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Le mal est fait, j'ai plus trop de raisons de rétro-pédaler. Et la question, c'est quelles mesures il pourrait mettre, quelles nouvelles mesures il pourrait mettre en place. C'est pas clair qu'il ait envie de relancer les hostilités militaires, recommencer à bombarder, mais il pourrait décider qu'il maintient son blocus en espérant qu'à terme, peut-être même à très long terme, ça fasse suffisamment mal au régime pour qu'il revienne de manière plus souple à la table de négociation.
Parce que là, l'histoire d'envoyer des troupes au sol, on en est où par rapport à cette menace-là? Il me semble qu'on n'a comme pas entendu parler. En même temps, là, il envoie 15 000 soldats. C'est des soldats qui vont être là, dans le coin. Ça peut préparer peut-être autre chose?
Ben, les troupes au sol, il l'a jamais menacé directement. Hein. Ça a toujours été des menaces aériennes, de bombardement. Il n'a jamais vraiment envisagé d'envoyer des soldats. Je pense pas qu'il le dirait s'il voulait le faire, pour garder l'élément de surprise. Est-ce qu'il le ferait? Ce serait extraordinairement impopulaire chez les Américains. On est à nouveau des soldats américains qui meurent sur le sol du Moyen-Orient. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'elles restent là. Ces troupes-là, elles demeurent disponibles. Les parachutistes qu'on a envoyés, les Marines qu'on a envoyés, ils sont dans la région en stand-by. Si le régime iranien devait faire une vraie connerie. Par vraie connerie, ce que je veux dire, c'est par exemple d'essayer de couler un torpilleur américain, de couler un navire américain ou de couler un navire de la marine marchande, là, ce serait une escalade. Et s'il y a cette escalade-là, peut-être que les Américains voudraient eux aussi escalader.
On change de sujet, Georges Mercier. L'idée du Canada qui pourrait rejoindre l'Union européenne, ça a fait la manchette dans les derniers jours. Bon, ça arrive de temps en temps que quelqu'un le lance, des fois un peu à la blague, des fois peut-être avec un fond de vérité.
Puis ça vient des dirigeants européens aussi, ces blagues-là. Là. C'est pas le Canada qui dit ça.
C'est un peu une blague à la Donald Trump qui dit qu'il va faire du Canada un nouvel État américain. Là. C'est une joke, mais ouais, il y a peut-être un peu de sérieux là-dedans. Le Canada dans l'Union européenne, c'est-tu quelque chose de complètement absurde comme ça peut en avoir l'air à première vue ou il y aurait quand même un certain sens dans ça?
Ben, ça dépend comment on le voit. C'est sûr que si tu regardes une carte du monde, le Canada est pas mal loin de l'Union européenne. Cela étant dit, tu sais, St. John's au Labrador est plus proche de l'Europe que de Vancouver. Donc, le Canada est un pays immense aussi. Bon, évidemment, entrer pour de vrai dans l'Union européenne, ce serait un cauchemar législatif parce qu'il faudrait qu'on adhère à ce qu'ils appellent là-bas l'acquis communautaire. Donc, on mette en place toutes les lois supranationales que les Européens ont mis en place dans l'Union européenne depuis la création de l'Union. Donc, ce serait extraordinairement compliqué. Je pense que la vraie question qui se pose, c'est une question qu'on se pose pas de manière assez explicite depuis le retour de Trump, c'est quoi le Canada? C'est quoi les valeurs canadiennes? Parce que c'est vrai que si vous êtes un Ontarien ou vous habitez dans l'Est du Canada, vous avez plus d'affinité avec les Européens. Vous pensez que vous aimez leur mode de vie, leur manière de travailler, des choses comme ça. Mais si vous êtes dans les prairies, dans l'Ouest du Canada, vous avez plus d'affinité avec les États-Unis et avec le Royaume-Uni. Oui. Et là, on a un premier ministre, Mark Carney. Tu sais, Mark Carney, et Max, on va se le dire, là, a fait du Carney. C'est-à-dire, il est monté dans un avion, il est allé à l'étranger, il a fait un beau discours. Puis on verra si ça va, il va en sortir quoi que ce soit de ce beau discours-là. Mais Carney est dans un imaginaire très européen. Et on peut pas le laisser prendre des décisions comme ça ou initier des processus sans consulter la population canadienne qui a un vrai travail à faire. Il doit se demander qu'est-ce qu'on est au Canada.
Mais j'entendais des analyses de toute façon un peu dans la même lignée de ce que tu viens de mentionner, Georges, ne serait-ce que pour la gestion de l'offre. Ça serait complètement catastrophique pour le Canada de faire ça. Là. Fait que je pense pas qu'il y ait une réelle intention du Canada de joindre l'Union européenne.
Ah, mais c'est intéressant la question de la gestion d'offre parce qu'évidemment, il faudrait la remplacer par la politique agricole commune en Europe. Mais la gestion de l'offre, elle est dans le collimateur de qui en ce moment? Des Américains, ouais, lors des négociations commerciales en ce moment. Donc, si on doit à terme l'abandonner, c'est un sujet politique assez clivant, je le conçois, ouais, là. Si on doit à terme l'abandonner, on veut l'abandonner pour les Européens ou pour les Américains? Mais pour répondre à cette question-là, il faut qu'on soit capable de dire c'est qui a les valeurs les plus proches de nous. Puis je pense que, tu sais, il y a beaucoup de peur en ce moment par rapport à Donald Trump, c'est vrai. Mais on a eu un sondage récemment auprès des Américains qui nous montrait que l'Américain moyen, là, il aime encore le Canada, il n'a pas d'hostilité envers nous. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut à très court terme changer complètement notre architecture économique, géopolitique, militaire pour un homme qui nous déplaît à la Maison-Blanche ou au contraire, mettre un peu d'eau dans notre vin, attendre que la tempête passe?
Mais admettons que je fais un parallèle un peu boiteux, là, mais des fois j'ai l'impression que le Canada, c'est la fée cute au bord puis qu'autant l'Union européenne veut l'avoir ou les États-Unis veulent l'avoir. C'est peut-être une position un peu enviable pour le Canada ou pas du tout?
Ben, le Canada, oui, on peut user de notre ambivalence, mais c'est la fille cute au bar qui sait pas dans quelle maison elle couche le soir. On sait pas elle est dans le lit de qui. Elle veut coucher chez eux, mais on dirait qu'elle n'est pas assez riche pour avoir sa propre maison, fait qu'elle n'a pas le choix de coucher à quelque part. Puis la question, c'est on couche en Europe ou on couche aux États-Unis, mais la fille cute, il faut qu'elle se pose des questions sur ce qu'elle veut dans la vie.
J'adore.
Je vais terminer avec ça, Georges, puis j'essayais de trouver une façon de garder la fille cute dans l'histoire, mais je n'ai pas trouvé vite de même, fait que puis on n'ira pas s'aventurer à des places dangereuses non plus, fait qu'on va terminer l'histoire de la fille cute là, à moins que tu souhaites y revenir selon ma question, mais moi, elle sera pas là dans ma question, la fille cute. Est-ce que le Canada est en train d'aller trop loin dans ce désir-là de diversification? On dirait que Mark Carney agit présentement, puis on s'entend que c'est payant politiquement pour lui de le faire, là, de jouer l'histoire du gros méchant Trump l'autre bord, là. Mais on dirait qu'il joue comme si Trump allait rester là pour toujours, puis qu'avec les États-Unis, c'était terminé, puis que la relation viendrait jamais, jamais, jamais proche de ce qu'elle a déjà été. Alors que dans les faits, Donald Trump, dans 3 ans, c'est fini. Puis peut-être que ce sera J.D. Vance, peut-être que ce sera quelqu'un qui a des politiques semblables à Donald Trump. Mais me semble que c'est pessimiste un peu de dire que ça reviendra jamais comme avant. Puis que je comprends le désir de diversification. Puis c'est super d'avoir eu ce wake-up call-là. Mais que là, on la joue peut-être un peu trop intense aussi.
Ben, deux affaires. Dire que ça ne reviendra jamais comme avant, c'est un peu donner raison à Donald Trump avant, alors qu'il est au pouvoir. Parce que c'est lui qui nous dit ça. C'est lui qui nous dit la relation, elle est inégale, on ne peut plus se faire confiance. Donc, tu as raison, Max, de le soulever, ce point-là. Deuxième point, Mark Carney nous annonce beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de discours. La réalité ne rattrape pas les discours pour l'instant. Donc, le mal, à ce compte-là, il n'est pas encore tout à fait fait. Puis, dans les faits, les États-Unis vont demeurer le principal partenaire commercial du Canada, ne serait-ce qu'en raison de notre géographie. Donc, oui, il faudrait tempérer un peu nos ardeurs. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de communication publique. Mark Carney, tu as raison de le mentionner, veut jouer de la crise, c'est que sa légitimité, sa popularité vient de la crise. Donc, il va toujours nous remettre la crise en face. Nous, on a aussi intérêt à faire un peu la part des choses puis regarder le temps long plus que toujours le court terme.
Georges Mercier, analyste politique internationale. Toujours un plaisir. À bientôt.
À bientôt, Max.
Salut, mon ami. Au retour de la pause, Audrey Pinchot sera là pour l'Open Mic. Aussi, d'ici la fin du show, Pascal CV va venir faire son tour. Et dans les prochaines, on fait aussi un petit tour de nouvelles avec Ariane. Kat Bacha, merci beaucoup.
Salut, Max. À demain.
On revient dans quelques minutes, 10h57.